France Culture. Culture, tout de suite, la série musicale. Zoé Sfez.
Culture,
la série musicale
Zoé Sfez. Bonjour et bienvenue dans une émission toujours libre de tous les récits, de tous les chefs-d'œuvre. Une heure de radio sur la musique et en musique, c'est la série musicale sur France Culture. Si vous êtes fan du studio Ghibli, pas de doute, ce thème sans doute vous évoque une citadelle perchée dans les nuages, dans l'une des meilleures adaptations du voyage de Gulliver. Des nuages et une cité pour l'éternité, alors que le Festival d'Annecy s'apprête à rassembler la crème de la crème du cinéma d'animation mondial en ce mois de juin, comme il le fait depuis 1960. On avait assez envie, ici, à la série musicale, de s'offrir enfin le plaisir d'une série entièrement consacrée à ce que l'on doit musicalement à l'animation en matière de musique. Et on lui doit tant. On le mesure particulièrement, je trouve, cette année, marqué par le triomphe absolu de la deuxième et dernière saison, oui, nous pleurons ici aussi, de la série d'animation Arcane, qui doit autant au génie des animateurs et animatrices très largement français, du studio Fortiche, qu'à son incroyable bande originale travaillée pendant des années par le studio Riot Games. On le voit aussi avec le succès très grandissant, à la fois sur les plateformes de streaming et les plateformes entièrement dédiées, des animés japonais, regardés et regardables par tous et par toutes, des jeunes adolescents de 12-13 ans que des immenses animés comme Naruto, One Piece ou Akira aident à traverser cette période de métamorphose qu'est l'adolescence, qu'aux plus âgés qui ont été initiés au genre, soit par le Club Dorothée, et oui, c'est ma génération, mais aussi et surtout, peut-être par les longs métrages de l'immense, de l'incroyable studio Ghibli. Vous en entendez ici l'un des meilleurs exemples. Tout cela, tout cet énorme soft power de l'animation japonaise, eh bien, il a eu lieu, ce succès non démenti, grâce au travail monumental des compositeurs et des compositrices japonaises à qui nous allons consacrer ce premier épisode. Car si cette musique dite d'animation japonaise a progressivement investi absolument tous les styles, du jazz au rap, à absolument tous les styles, vous allez l'entendre, il y a toujours quand même une patte très précise de ces compositeurs et de ces compositrices d'animés japonais. Une patte qui est très particulière, où l'on retrouve autant les influences de l'ambient et de l'électro, qui a beaucoup marqué la génération des musiciens japonais des années 70, que la musique classique occidentale, parce que quasiment tous les gens que vous allez entendre ont une très solide culture de musique à la fois religieuse, qu'on entend dans les batailles épiques, mais aussi de la musique dite française. L'influence de Ravel et Debussy est absolument cruciale dans cette musique, puisque ce sont des maîtres de la mélodie et des couleurs qui vont être très présents dans ce fameux thèmes que l'on retrouve dans les animés, déclinés à peu près à tous les moments et à toutes les sauces. Grande évidemment influence de la musique minimaliste et d'immenses apports de la musique traditionnelle japonaise évidemment et de ses instruments. On va tenter, petit disclaimer, un récit de ce mouvement musical qui a commencé, on peut le dire, dans les années 80, de comprendre comment il s'est construit, avec justement quelles idées de génie, quelle capacité à faire se rencontrer, à fusionner plusieurs cultures et à créer une mythologie musicale qui nous aide à avancer dans la vie. Évidemment, toutes vos musiques favorites ne seront pas présentes car nous n'avons qu'une heure, mais nous avions envie de nous faire cet immense plaisir, ode à ces génies de la musique d'animé. Le merveilleux Merry-Go-Round of Life, l'un des thèmes les plus beaux, les plus somptueux composés par l'incroyable Joe Hisaishi. Alors je sais que parfois vous me reprochez d'être parfois trop dithyrambique, mais je pense que le terme est ma foi absolument adapté quand on parle de son compositeur qui, en japonais, dont son nom de naissance s'appelle Mamoru Fujisawa, qui est probablement l'un des compositeurs les plus importants de l'histoire du cinéma japonais, donc du cinéma d'animation. Il est encore en vie, il a 74 ans, bien que son collaborateur privilégié, lui, nous ait quittés. Joe Hisaishi, qui ici signe l'un des thèmes fondamentaux de l'un des plus beaux films du studio Ghibli, c'est Le Château Ambulant, production magnifique évidemment de Miyazaki. Vous entendez ici une version qui a été enregistrée dans ce qu'on a appelé Symphonic Celebration, un enregistrement assez fondamental puisque Joe Hisaishi, qui avait composé pour l'écran, s'est offert ce plaisir d'être joué par un orchestre symphonique, ce qui nous permet d'entendre sa musique pour ce qu'elle est, c'est-à-dire une partition absolument géniale. Ce thème, si vous avez vu ce film, Le Château Ambulant, et si vous ne l'avez pas fait, on vous invite vraiment à le faire, il est présent tout au long du film. sous toute une foule de formes de déclinaisons. C'est une valse, évidemment. Il y a beaucoup de valses dans les films de Miyazaki. Et ce thème nous montre bien des choses sur la manière d'approcher la musique que va avoir Isaichi et de manière générale le studio Ghibli. C'est à la fois un motif très simple, mais c'est un motif, une valse, qui peut être jouée à vitesse modérée, dans une version très valse, comme vous l'avez entendu ici, mais parfois plus tard dans le film, de manière très vive et aventureuse. On peut la jouer aussi de manière chaotique, c'est ce qui se passe dans le film. En réalité, cette construction, cette tension et cette résolution dans cette valse, on va la retrouver déclinée plus de 10 fois dans le film. Ce qui nous montre vraiment, en mode majeur et mineur, comment Isaichi construit sa bande originale. Ça pourrait être vrai de bien des films, de bien de bandes originales de films, qu'en réalité, il y a une spécificité, on va dire, japonaise à approcher la mélodie, le thème, le motif, qui vient du fait qu'évidemment les studios Ghibli se sont construits très inspirés, notamment par... on le redit, Le Roi et l'Oiseau, hein, des films d'animation plutôt français qu'américains, mais que le studio Ghibli va essaimer, se développer en même temps que les animés qui sont présents au Japon depuis les années 60, même si on ne les connaît en Europe que depuis les années 70 et 80, encore une fois, grâce au club Dorothée. Qui est Joe Isaichi? C'est un homme qui est né dans la préfecture de Nakano en 1950. C'est vraiment cette génération de juste après la Seconde Guerre mondiale, qui avait choisi son nom de scène en hommage au trompettiste américain Quincy Jones, profondément influencé évidemment par le jazz, mais aussi par l'immense culture musicale de musique, on va dire western music, c'est-à-dire de musique occidentale, aussi bien de la musique classique que de la musique minimaliste, qui joue un rôle évidemment dans son approche de la musique par motif, comme il le racontait dans une interview à Combini. Écoutez. Depuis mes débuts, je suis un compositeur qui fait surtout des musiques contemporaines minimalistes. Par hasard, j'ai eu l'occasion de faire des musiques pour certains films et de me faire connaître comme ça, mais j'ai toujours eu ça comme approche. Quand j'étais étudiant, je composais des morceaux de musique contemporaine dans le style de Pierre Bresse ou de Stockhausen, et à cette époque, j'avais entendu un morceau du compositeur minimaliste Terry Riley, A Rainbow in a Curved Air.
の曲をずっと作ってたんですけども、そしてその時にテリー・ライリーのテリー・ライリーというミニマルの作曲家がいるんですが、彼のそのレインボー・イン・カーブド・エアっていう曲を聞いて。
Ça m'avait beaucoup marqué, en particulier par la possibilité de répéter des mêmes motifs. Après quelques années d'hésitation, c'est un style que j'ai décidé d'adopter. C'est un style qui permet en fait une structure très logique. Donc, et ça c'est important pour ce que j'ai fait plus tard, on n'est pas obligé de composer en fonction d'une ambiance. J'ai aussi évidemment été influencé par d'autres personnes, et Steve Reich par exemple. Ou David Lang, par exemple.
D'ailleurs,
au passage, je vais vous dire quelque chose qui, je pense, peut vous intéresser. C'est un petit cadeau. En 84, quand M. Miyazaki a sorti son Nausicaa de la Vallée du Vent, si vous écoutez, toute la musique jouée à l'orgue est une musique qui a l'air classique, mais en fait, elle est minimaliste dans son approche.
Thank you.
L'incroyable Requiem pour Nausicaa, 1984, c'est le premier long métrage de Miyazaki en collaboration avec Joe Hisaishi. On est sur un récit qui est assez fondamental et qui montre bien ce que fera Miyazaki par la suite. C'est l'adaptation d'un manga qu'il avait lui-même écrit, Miyazaki, et on est dans un récit de science-fantasy post-apocalyptique qui a évidemment pour thème deux questions qui vont animer Miyazaki tout au long de sa vie, c'est-à-dire l'écologie et le pacifisme, le tout dans un récit plutôt pas manichéen. Ce Requiem, ce court morceau nous dit tant de choses sur déjà ce que va devenir, ce qu'est la musique d'anime. Vous avez reconnu ce Requiem, dans ce Requiem à ses débuts, un emprunt très clair à la sarabande de Handel, évidemment, que vous connaissez certainement aussi dans la bande originale de Barry Lyndon, de Stanley Kubrick, qui impose comme ça cette grande pompe et une couleur renaissance, tout de suite suivi d'une espèce de petite allusion, de citation d'un thème écrit par Bernstein, évidemment, dans West Side Story. C'est la mélodie de cette petite air chantée par Tony et Maria, Somewhere, deux amoureux, Roméo et Juliette, dans l'Amérique des années 50, qui imaginent un endroit où ils pourraient vivre heureux. Et donc, évidemment, ça colle à ce propos utopiste, ou en tout cas pacifiste, de Nausicaa de la Vallée du Vent, suivi ensuite par ses couleurs à la fois profondément années 80 dans la musique, hein, de l'espèce de flûte au synthé, et à la fois qui évoque quelque chose de l'ordre d'une musique qui serait renaissance, une forme de modernité et en même temps d'allusion à ce grand passé, une vraie capacité chez Hisaishi à aller piocher comme ça dans la musique qu'il a construit, qu'il a beaucoup écouté lui, pour aller donner une forme de pompe, de noblesse à son propos. Ce qui est intéressant, c'est que vous allez le voir, des premières musiques produites par le studio Ghibli dans ses grands longs métrages aux animés, encore aujourd'hui les citations de la musique occidentale et de tout ce qu'elle charrie dans votre imaginaire, même si vous n'avez que 12 ans et que vous ne connaissez pas Bach, eh bien elles sont présentes partout. Par exemple, dans l'incroyable et le très 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 fondamental animé Naruto, avec le thème de l'un des plus grands antagonistes de ce manga et de cet animé fleuve, Orochimaru, qui a un thème, c'est le grand méchant de Naruto qui aspire à l'immortalité et qui pour cela essaye d'une certaine manière de s'accaparer tous les éléments magiques et toutes les compétences des ninjas, lui, dans son thème, composé par Toshio Masuda, l'un des grands maîtres de la composition d'anime. Il y a une citation très claire de la Toccata en ré mineur de Bach. Orochimaru, personnage de fiction du manga Naruto, l'un des plus vendus au monde, un des antagonistes principaux. Sa voix du ninja est aux antipodes de celle de notre héros. Il est l'un des Sanin, les trois ninjas légendaires. Et il est omnibulé par la décadence, la mort, la décrépitude du corps humain. Quoi de mieux qu'une toccata et une fugue de Bach, évidemment, pour nous rendre cette obsession de l'éternité et aussi ce côté morbide. Vraiment une belle idée de Toshio Masuda qui a, en collaboration avec Yasuharu Takanashi, écrit une bonne partie de la musique des adaptations en animé de ce manga, Naruto. On va écouter justement deux maîtres de la composition d'animé, Yasuharu Takanashi et Yuki Hayashi, qui lui a beaucoup composé pour My Hero Academia, nous expliquer justement comment on travaille quand on est compositeur d'animé. Vous allez les écouter et on va comprendre aussi comment on construit ces thèmes qui ont vocation à revenir tout au long, évidemment, de très très longues adaptations sérielles. Dans une certaine mesure, les ordres, ou en tout cas les commandes, arrivent en général de la même manière. On veut tel ou tel nombre de sons tous les jours, tel nombre de sons comiques et tel nombre de sons tragiques. En général, chaque directeur du son a ses particularités. Certains diront par exemple qu'ils veulent partir d'un thème principal, puis créer des ramifications autour de lui. Beaucoup de directeurs du son veulent travailler comme ça. Et d'autres préfèrent enregistrer des cuts pour chaque épisode. En général, je les rencontre pour comprendre ce qu'ils veulent, et pendant l'échange entre le directeur du son et le réalisateur, j'écoute pour voir ce qu'ils ont déjà décidé. Je me demande, si la scène était comme ça, qu'est-ce que ça donnerait avec un son comme ça? Et parfois, ils vont dire, je ne veux absolument pas que ce soit comme ça. La décision finale se prend pendant les réunions, et on interprète les choses à notre manière, on commence à créer. J'aime bien comparer ce qu'on fait finalement à la question de la nourriture. Nous avons un restaurant qui ne propose pas vraiment de menu. Les gens disent « je veux manger ce genre de choses, mais la viande me fait plutôt mal à l'estomac, alors mettez-moi plutôt des légumes ». Alors comme ça, on en tient compte et on propose des œuvres ou alors des plats qui ont été adaptés, mais dont on pense qu'elles pourront leur plaire. Beaucoup d'enfants regardent les animés, alors jouer des instruments que les enfants aiment bien, on peut nous dire ça par exemple. Ou bien, beaucoup d'enfants le regardent, mais ce n'est pas un animé enfantin, il va traiter de thèmes sérieux, alors utilisons plutôt un motif plutôt grave. Il y a aussi des commandes beaucoup plus spécifiques. On cherche précisément cette progression d'accords à travers les morceaux. Parfois, il me semble préférable de suivre la vision du réalisateur ou du directeur son. Mais il y a des fois où j'estime qu'il est beaucoup plus intéressant de faire complètement l'inverse de ce qu'il demande, puis de lui montrer le résultat. Un exemple des morceaux qu'on trouve dans les bandes originales, des premiers animés les plus marquants de l'histoire. Là, vous entendez l'œuvre de Shinsuke Kikuchi, qui est l'homme qui est à la manœuvre dans quasiment toutes les adaptations de Dragon Ball, puis Dragon Ball Z. Une petite scène ici, Nappa et Vegeta qui arrivent sur Terre. Si vous regardez ces bandes originales, elles sont conçues comme ça, surtout dans les années 80. Ce sont des thèmes qui cumulent, vous l'entendez, des effets comiques, des effets de suspense. On va retrouver le même thème baptisé, décliné, Triste 1, Triste 2, Triste 3, Comique 1, Comique 2. Et les compositeurs envoient cette espèce de menu en fait aux réalisateurs, puis qu'ils aillent piocher et adapter ces thèmes à des scènes. Vous allez le voir au fur et à mesure du temps, évidemment, la conception et la place de la musique dans les animés, aussi sous l'influence de ce que fait les studios Ghibli, va progressivement, évidemment, devenir de plus en plus importante, de plus en plus lyrique, quitte parfois à prendre une place totalement décisive. Mais revenons justement à la bande originale de Naruto et à l'écriture de Toshio Masuda dans ce Sadness and Sorrow, un thème absolument fondamental dans l'adaptation à l'écran de Naruto, qui a été joué ici, joué par l'orchestre royal Philharmonique de Londres, avec Christian de Macellaro, le directeur musical de notre Orchestre National de France, avec au violon Ray Chen, un violoniste très respecté de la scène classique, qui a lui tant grandi avec les animés, ses musiques, mais aussi les jeux vidéo, qu'il a vraiment voulu dédier un album entier à ce répertoire, Sadness and Sorrow, dans un arrangement justement symphonique, pour comprendre l'intelligence et la beauté des thèmes composés pour ce corpus. entendez ici le violon de Ray Chen se faire tour à tour à la fois profondément occidental et à la fois évoquer les instruments à cordes à la fois japonais et chinois dans cette réinterprétation symphonique, mais qui montre bien l'espèce de fusion culturelle qui se joue dans l'écriture de ces partitions d'animés. Vous allez l'entendre aussi et le comprendre, par exemple, dans la bande originale construite par l'adaptation en animé du manga Akira, un manga qui a été porté par Katsuhiro Otomo, qui raconte cette ambiance, hein. C'est un récit assez fou, Akira, qui se joue dans 2019, mais qui a été écrit dans les années 80, dans une Néo-Tokyo qui est devenue une mégalopole complètement corrompue, sillonnée par des bandes de motards désœuvrés et drogués, et où Tetsuo, un jeune héros, va faire la rencontre d'un étrange petit garçon qui semble doté de pouvoirs surnaturels, psychiques, télépathie, téléportation, télékinésie. Ce Tokyo et cette ambiance, justement, Katsuhiro Otomo a cherché à le retranscrire. Il savait que la musique serait cruciale pour faire basculer finalement son décor, le décor qu'il avait construit. Il a choisi pour ça Geino Yamashi Rogumi, un collectif d'artistes japonais qui, à l'instar de beaucoup d'artistes japonais de la scène tokyoïde des années 80, font des mélanges qui semblent cruciales pour mettre en place l'atmosphère de ce manga. Écoutez-le, le réalisateur.
最初に、山城組の、ブルガリアンボイスっていうのをレコードがありまして、
ちょっと。Cet ensemble avait fait un album où ils avaient utilisé des voix bulgares. J'ai oublié le titre, mais j'ai entendu cet album. Et puis il y a eu Ketchak, une œuvre chorale. Et en fait, toutes ces œuvres étaient chorales. Et chaque enregistrement était pensé comme une suite. Au lieu de construire un album avec des chansons isolées, ils avaient fait une œuvre que je qualifierais de totale. Du coup, comment dire, ils ont une vraie portée dans le monde de la musique à ce moment-là. Ils ne se contentent pas de faire des pièces individuelles. Ils montrent qu'ils veulent construire une œuvre globale. Et en plus de ça, moi, j'avais envie d'utiliser un chœur. Et donc, ayant ça en tête, j'ai conclu qu'en fait, il fallait travailler directement avec eux. Et puis, eux, ils se composent d'un très large éventail musical. Je vous le dis, ils font intervenir des voix bulgares, mais ils font aussi arriver toute la culture rock. Il y a aussi une présence de la musique japonaise traditionnelle. C'était un vrai mélimélo. Donc je me suis dit qu'il se rapprochait vraiment de l'image que j'avais, moi, du Tokyo que je voulais construire. Et qu'Akira ne fonctionnerait pas, à moins d'avoir quelque chose qui, justement, le raccorderait à cette image de Tokyo. Je ne voulais pas juste d'une bande-son classique. Je voulais que Akira fonctionne. Il fallait cette musique luxuriante. Simple musique classique ou chorale n'aurait pas suffi. Il fallait quelque chose qui sous-tende quelque chose d'ethnique, avec du rythme. Parce que vous voyez, j'aime bien le rythme. Et puis, le travail de cet ensemble inclut justement toute cette perspective.
Thank you.
Akira, génial, épique, mélange de chœurs bulgares et de percussions qui font penser évidemment à, et qui évoquent, et qui sont très clairement d'ailleurs issus de la culture japonaise. Ces mélanges, ces emprunts à d'autres cultures vont en fait garantir sans doute un souffle épique qui soit plus large que japonais et qui marche très bien, y compris dans d'autres pays. C'est évidemment le cas si on revient aux musiques écrites par Joe Hisaishi pour le studio Ghibli, puisqu'il va accompagner quasiment tous les films de Miyazaki se renouveler, même s'il y a évidemment toujours une grande constante, il est très adepte des valses, comme il le racontait toujours à Konbini, en évoquant cet emprunt à la musique occidentale. Moi, je ne me suis jamais dit consciemment, je vais tenter de fusionner la musique occidentale et la musique japonaise. Mais pour le coup, il y a beaucoup de choses très européennes dans la culture de Miyazaki. Par exemple, Kiki la petite sorcière se situait dans un décor européen. J'ai donc composé une musique qui pourrait aller avec, qui avait des emprunts à de la musique de Ravel, par exemple. Mais ceci dit, bien sûr, je suis japonais, donc je pense que j'ai procédé de manière assez naturelle, sans y penser, et que j'y ai mis aussi ma culture. Dans le château ambulant, en particulier, il y avait une atmosphère profondément européenne, puisque le décor est inspiré de Strasbourg et de l'Europe de l'Est. Ça peut être la raison pour laquelle j'ai choisi ce thème de la valse. Ça se passe aussi dans une société en guerre qui évoque la Première Guerre mondiale. Et puis j'ai fait écouter à Miyazaki certaines des valses que j'avais écrites. Il y en avait trois. Et lorsque je lui ai fait écouter la deuxième, il a trouvé que c'était la meilleure, comme je l'espérais. Et ça m'a rendu très heureux. Et non, ça n'est pas du Joe Hisaishi que vous écoutez, c'est du Rimsky-Korsakov orchestré par Ravel en tar, un allegretto qui a profondément influencé Joe Hisaishi. Alors vous avez évidemment reconnu la valse du château ambulant qu'on vous a jouée en ouverture, mais écoutez la manière dont par exemple il emprunte directement à la fois à Korsakov et à Ravel dans le morceau qu'il écrit pour Kiki la petite sorcière. On entend à la fois la pompe presque beethovenienne et cette utilisation, voilà, des instruments à vent, des instruments à bois qui sont vraiment typiquement les instruments de l'orchestration française, de la grande musique française, Ravel, très largement. On prend un peu à Delerue aussi, Georges Delerue, à qui on a consacré une émission dans ses sonorités un peu 70, qui un peu à l'image de ce que faisait Joe Hisaishi, lui aussi faisait beaucoup de références à la grande musique occidentale en l'adaptant. Évidemment, Ravel et Debussy, on vous l'a déjà beaucoup dit hein, dans les émissions consacrées à ces deux compositeurs, Ravel et Debussy, l'éternel retour, ont profondément influencé les Japonais, qu'ils soient adeptes de l'ambient, de la musique électro, et qu'ils soient aussi des adeptes du hip-hop. Il y a une figure très importante et très aimée hein, de la composition des animés. Il s'appelle Jun Seba, son nom de scène c'est Nujabes. Il est né à Shibuya et mort justement, il est né à Tokyo et mort à Shibuya à l'âge de 36 ans seulement. Ça a été un précurseur du jazz pop, de cette hybridation jazz et hip-hop, et il a été vraiment important dans l'évolution de la musique d'anime, puisqu'il a composé la bande originale de Samurai Champloo, un anime de 2004 qui va énormément marquer l'un des titres les plus aimés hein, de ses adeptes qui le pleurent parce qu'il est mort bien trop jeune. C'est Arwarian Dance, qui n'est autre qu'une adaptation très directe de Ravel, Pavane pour une enfant défunte. Dont la bande originale écrite pour justement Samurai Champloo va marquer une forme de tournant en fait dans ce début des années 2000. Il y a une vraie évolution, un élargissement on va dire, des registres dans lesquels les compositeurs et compositrices de musique d'anime vont aller piocher juste avant justement Samurai Champloo et cette entrée hein, de plein pied dans une musique électro qui relève un peu de l'ambiance. Vous écoutez un morceau qui a écouté 35 millions de fois sur Spotify. Ravel a de belles heures devant lui. Il y a aussi une figure hyper importante, elle s'appelle Yuki Kajiura. C'est une figure de compositrice qu'on adore. Elle est née en Allemagne de l'Est dans une famille très friande de musique classique. Elle a été ingénieure système dans une première vie, puis membre d'un des groupes de J-pop les plus influents, SISO, avant de se consacrer justement à la composition de bandes originales pour les animés. Et elle va faire un coup de maître en 2001. En travaillant pour le studio d'animation de Koichi Mashimo, B-Train, et leur premier projet, un animé en une saison qui va durablement marquer l'histoire du genre parce qu'il laisse une place énorme à la musique. L'animé s'appelle Noir, tout simplement, et justement décrit un univers noir avec deux héroïnes. C'est la musique qui prend en charge quasiment tout le récit. Écoutez ce thème des soldats. Yuki Kajiura, dont l'écriture qui mêle ici par exemple violon zygane, trip-hop et chœur presque chrétien, va beaucoup marquer hein, l'histoire du genre. C'est vraiment un jalon dans l'histoire de la musique d'anime qui va d'une certaine manière permettre d'élargir et de aussi prendre la mesure de la place que la musique peut occuper dans la narration, pas uniquement comme évidemment l'expression d'un thème ou une rythmique, mais comme un membre à part entière du récit, presque plus que les dialogues. Il y a aussi une immense figure féminine dans cette espèce de foule de compositeurs et de compositrices. Elle s'appelle Yoko Kanno, elle est adulée puisqu'on lui doit, elle aussi, un très influencé par Debussy et Ravel, qui a beaucoup donné dans le jazz, dans la folk. On lui doit énormément de musique d'animé importante. On soupçonne d'ailleurs, puisqu'elle est très mystérieuse, qu'elle chante aussi sous le pseudonyme de Gabriella Robin. Elle a beaucoup écrit, notamment pour le manga Cowboy Bebop, mais aussi pour le manga, la première adaptation de Ghost in the Shell. Vous allez écouter ce qu'elle crée. Elle revendique justement la possibilité, le droit de naviguer entre les genres qu'elle maîtrise tous. J'entends parler à chaque fois, dit-elle, de gens qui se revendiquent d'un genre, le classique, le jazz. Moi, je ne divise jamais la musique par genre. Je ne me crée pas en disant que je dois faire des emprunts ici ou là. Quand je compose, je me préoccupe pas du tout du genre, mais je vais chercher la couleur d'un thème, un thème amoureux, une ambiance. Écoutez ce qu'elle fait ici, par exemple, dans Cowboy Bebop, avec ce Greenbird qui emprunte presque à la musique chorale de Britten anglaise, dans lequel elle cherchait à justement raconter quelque chose de l'ordre de l'innocence.
Just a friend, there's no inside, there's no inside.
ce tambour et l'immense intelligence de Kenji Kawai qui compose la bande originale de deux adaptations du manga Ghost in the Shell qui se passe dans un univers cyberpunk puisqu'on est censé être en 2030. La bande, le morceau que vous écoutez montre à l'écran la création du personnage principal qui est un cyborg féminin, le major Motoko Kusanagi. On est dans un univers où l'intelligence artificielle a une large place et pourtant, ce qu'on entend, c'est cette musique profondément incarnée. Kenji Kawai explique qu'il a été profondément influencé par le sanctuaire Shinagawa et les cérémonies qui utilisent un mikoshi. C'est des festivals annuels, évidemment, shintoïstes. Ce mikoshi, c'est un tambour qui sert à guider les mouvements et que Kenji Kawai utilise, il en est imprégné au moment où il écrit ce travail pour la BO de Ghost in the Shell, ce qui va permettre à la fois de rendre le côté saccadé et, on va dire, machinal de ce cyborg, tout en lui donnant quelque chose de follement incarné. On va se quitter sur une bande originale absolument mythique, car évidemment, vous l'avez compris, l'épique est au rendez-vous dans ces musiques d'animé après avoir compris comment justement tous ces talents arrivent à fusionner, à créer des thèmes qui empruntent un peu à toutes les cultures en essayant de prendre en charge le récit. On va se quitter sur cette Army Attack composée par Hiroyuki Sawano pour, évidemment, l'attaque des titans, un manga dont il disait qu'il était très sale, finalement, et qu'il avait envie de lui redonner une forme de noblesse. Vous allez l'entendre ici avec l'utilisation d'une guitare électrique, puis d'une guitare plutôt hispanisante. On trouve qu'il a bien fait. Ce violon de Zigan qui nous montre bien comment ces compositeurs, ces compositrices des animés japonais ont su en 40 ans construire des œuvres absolument épiques et ébouriffantes qui justement touchent à l'universalisme car elles ont cette capacité synthétique, voire syncrétique. Merci beaucoup à Laura Dutèche-Pérez, l'incroyable attachée d'émission de la série musicale, à Thomas Jost ainsi qu'à l'incroyable Dalia qui était au platine aujourd'hui. À la semaine prochaine.